commence par le journal, Clara Lecoq-Réal, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Un sommet de l'OTAN suspendu à l'humeur de Donald Trump. Le président américain est arrivé hier soir à Bruxelles et il a déjà prévenu les pays membres vont devoir faire des efforts sur le financement de l'Alliance. Nous y reviendrons.
Sommet de l'OTAN, justement, l'Europe est-elle désarmée face à Donald Trump? Nous en parlerons avec nos invités, la présidente du conseil d'administration de l'Institut des hautes études de défense nationale, Nicole Niesotto, et Pascal Boniface, géopoliticien directeur de l'IRIS. Ils seront avec nous à partir de 7h40.
Emmanuel Macron, lui, arrivera cet après-midi pour ce sommet en Belgique après avoir assisté à la défaite belge sur un terrain de football. C'est l'équipe de France qui s'est qualifiée hier soir pour la finale de la Coupe du Monde de football, 1-0 au coup de sifflet final.
Dans votre journal également, nous irons au Japon où le bilan humain s'alourdit de jour en jour après les pluies torrentielles de la semaine dernière. Le Premier ministre Shinzo Abe est sur place dans l'ouest du pays.
Et puis va-t-on vers une privatisation de la gare du Nord à Paris en vendant la majorité de son espace commercial ? Les syndicats le craignent, la SNCF répond dans un instant. Donald Trump est donc arrivé à Bruxelles hier soir pour participer à un sommet de l'OTAN sous tension. Le financement de cette alliance de l'Atlantique Nord, politico-militaire, sera au cœur des discussions. Tous les pays se sont déjà engagés à contribuer à hauteur de 2% de leur PIB pour faire face aux menaces. Mais la plupart sont loin du but, ce qui ne devrait pas manquer de susciter des remarques de la part des États-Unis, les plus gros contributeurs. Des remarques surtout de la part de leur président, Nathalie Hernandez.
Que va bien pouvoir dire Donald Trump? Quel sera son état d'esprit? L'imprévisibilité du président américain et ses déclarations à l'emporte-pièce ne rassurent pas les membres de l'Alliance. Et les derniers tweets du locataire de la Maison-Blanche ne sont pas encourageants. Sur le réseau social, Donald Trump critique, comme l'an dernier, les membres de l'Alliance qui ne mettent pas suffisamment la main à la poche. Les États-Unis dépensent bien plus pour l'OTAN que n'importe quel autre pays, écrit-il. Ils doivent en faire davantage, assène Donald Trump. Le président américain en rajoute en faisant le lien avec la guerre commerciale qu'il oppose aux Européens, avec toujours comme principale cible l'Allemagne, qui ne contribue qu'à hauteur de 1,24% de son PIB, contre près de 4% pour les États-Unis. La France, elle, veut toutefois rester optimiste. Chacun doit montrer qu'il fait des efforts et surtout afficher l'unité de l'Alliance. Il faut à tout prix éviter que Trump affaiblisse l'image de l'Union européenne à quelques jours de sa rencontre avec son homologue russe, Vladimir Poutine.
Et avant cela, le sommet de l'OTAN, donc, qui va durer 2 jours à Bruxelles. Aujourd'hui, Donald Trump et Emmanuel Macron doivent s'entretenir ensemble à partir de 16h cet après-midi. L'Europe est-elle désarmée face à Donald Trump? Nous en débattrons à partir de 7h35. Le président américain, on l'a compris, qui veut peser sur l'économie mondiale, sur le commerce, en passant souvent en force. Nouvelle salve de menaces qu'il pourrait mettre à exécution dès la rentrée en septembre. Donald Trump veut taxer 200 milliards de dollars de produits chinois qui entrent aux États-Unis en raison toujours d'indifférence sur la propriété intellectuelle. Pékin avait fait de même il y a quelques jours sur 34 milliards de dollars de produits. La Chine qui répond d'ailleurs ce matin, c'est détruire le commerce sino-américain. Pékin saisit d'ailleurs l'Organisation mondiale du commerce. La veuve du dissident chinois Liu Xiaobo est arrivée à Berlin hier après-midi pour un traitement médical. Et ce, presque un an jour pour jour après la mort de son mari, prix Nobel de la paix. La poétesse restait depuis sous étroite surveillance et avait interdiction de quitter la Chine. Le premier ministre japonais Shinzo Abe est dans l'ouest du pays en ce moment au chevet des victimes touchées par les pluies torrentielles de la semaine dernière et des coulées de boue depuis. Shinzo Abe a annulé sa tournée en Europe et au Moyen-Orient pour cela, car la catastrophe météorologique est la plus meurtrière depuis 1982 dans le pays. Les autorités évoquent ce matin au moins 179 morts. Frédéric Charles depuis Tokyo.
Critiqué sur les réseaux sociaux pour son manque de visibilité, durant les 3 jours et les 3 nuits où les précipitations d'une violence inouïe ont noyé l'ouest et le centre de l'archipel, le Premier ministre Shinzo Abe prend aujourd'hui du haut d'un hélicoptère toute la mesure de la catastrophe naturelle. Il peut voir une épaisse coulée de boue sur des centaines de kilomètres d'où émergent des maisons détruites, des voitures renversées. Au sol, le maire de la ville de Kurashiki, l'une des plus touchées par les inondations, dit au Premier ministre que ses habitants doivent désormais faire face à des températures de 35 degrés à l'ombre, un taux d'humidité de 80%, dangereux pour leur santé. De nombreuses personnes âgées souffrent d'insolation. L'eau et la nourriture restent rationnées. Des climatisations ont été installées durant la nuit dans les lieux de refuge. En raison des risques de glissement de terrain, les autorités recommandent à 2 millions de personnes de rester à l'écart de leurs habitations. Le gouvernement va débloquer 4 milliards de dollars pour reconstruire les infrastructures.
Notre correspondant depuis Tokyo, Frédéric Charles.
Il est 7h05 sur France Culture. Le portrait de Sophie Pétronin flotte sur la façade du siège de la région Île-de-France.
Cette travailleuse humanitaire de nationalité française et suisse a été enlevée au Mali le 24 décembre 2016, il y a un an et demi. Plusieurs vidéos ont été publiées depuis par ses ravisseurs. La dernière date d'il y a un mois. Elle s'adressait dans cette vidéo à Emmanuel Macron et à son fils. Son fils qui était présent hier à Paris, Lucas Caltritti.
Sous l'immense portrait de Sophie Pétronin, qui l'appelle « ma mère » quand il est sérieux, ou « ma petite maman » quand il se laisse aller, Sébastien est reconnaissant, il espère que ce message qu'il lui envoie, elle le recevra, il veut aussi que l'opinion publique se mobilise pour elle.
On n'est pas dans une affaire d'État, on n'est pas dans une affaire de rançon, on n'est pas dans une affaire de djihadisme, on est avant tout dans une affaire d'humanité. Il y a une de nos compatriotes, en l'occurrence c'est ma mère, elle est là-bas, elle souffre, et il faut qu'on s'unisse tous ensemble, sans trop se poser de questions, pour avant tout la sortir de là et la ramener.
Et avant qu'elle soit délivrée, Sébastien Pétronin a un seul et unique message à faire passer à sa mère, otage au Mali.
Ma petite maman, si tu nous entends, tu peux avoir la garantie que je ne lâcherai rien et que j'irai te chercher au plus profond d'où tu te trouves.
Ingrid Bettencourt passe sa main dans le dos de Sébastien Pétronin pour le réconforter. Elle a été otage des FARC en Colombie pendant plus de 6 ans. Et pour elle, ces mobilisations sont essentielles.
Moi, ça m'a sauvé la vie. Il faut maintenant qu'elle revienne chez elle, qu'elle retrouve son fils. Et nous sommes là, nous disons présent et nous voulons que ça se passe vite. Nous ne voulons pas qu'on oublie et nous ne voulons pas qu'elle meure.
Le prochain objectif du fils de Sophie Pétronin est d'être reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. Lui, ainsi que sa famille, il estime que le chef de l'État détient tous les pouvoirs dans cette affaire.
Le gouvernement doit clarifier ses pistes d'économie. Le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale lui demande, en tout cas, alors que s'est ouvert hier le débat d'orientation sur les finances publiques en commission à l'Assemblée. Le plan Bercy du gouvernement doit d'ailleurs être dévoilé cet après-midi au cadre du ministère de l'économie et des finances. Et puisqu'on parle budget, la SNCF cherche en ce moment à engranger des recettes. Elle doit transformer ses grandes gares parisiennes pour faire face à l'afflux de voyageurs et aux nouvelles attentes de mobilité. Après les gares Saint-Lazare et Montparnasse, c'est donc la gare du Nord qui sera en travaux. La SNCF veut même tripler sa surface. Le groupe ferroviaire français espère en faire une aubaine financière, Mélodie Pépin.
Et pour cela, la SNCF mise sur les commerces. Sur plus de 100 000 mètres carrés de surface prévue, la moitié sera destinée aux boutiques et services de proximité. Du gagnant-gagnant pour le directeur général en charge du développement des gares, Patrick Roper.
Comme à Saint-Lazare ou comme à Montparnasse, l'entreprise versera une redevance. Cette redevance, elle nous permet, nous, de financer nos rénovations de bâtiments. Ça permet d'améliorer la gare, de l'agrandir, sans augmenter le prix du billet. En 2017, le revenu total des services et commerces dans les gares a rapporté à Gare et Connexion un peu plus de 200 millions d'euros.
Les syndicats, eux, dénoncent la part belle faite au commerce et une privatisation. La société Citrus détiendra 66% de l'espace commerce pour un bail d'une quarantaine d'années. La réponse de Patrick Roper.
Ce n'est absolument pas une privatisation. Les gares sont propriétés de l'État. On continue évidemment à gérer 100% du domaine du service public. Et pour développer la partie de services et de commerce, nous faisons appel à un partenaire qui nous aide à le développer.
Dans ce projet pharaonique estimé à 600 millions d'euros, censé aussi et surtout mieux gérer les flux de voyageurs, on mise sur un nouveau terminal de départ distinct de celui des arrivées, mais pas de nouvelles voies en gare, faute de place au sol. Le terminal Eurostar, lui, va s'agrandir avec le renforcement des contrôles douaniers liés au Brexit. Cette nouvelle aile, construite tout en transparence, comprendra 5 étages pour accueillir au mieux 900 000 voyageurs chaque jour en 2030, contre 700 000 aujourd'hui, et autant de consommateurs impulsifs.
La gare du Nord à Paris qui mène tout droit en Belgique grâce au train Thalys. Les Belges, beaux joueurs hier soir, malgré leur élimination en Coupe du Monde de football, éliminés par l'équipe de France qui file donc en finale 20 ans après le Mondial 98 et la première étoile. 1-0 hier soir et des Champs-Élysées en liesse, klaxon de rigueur dans de nombreuses villes. On estime qu'environ 30 millions de Français suivent cette compétition, soit près de la moitié de la population du pays. finale dimanche face au vainqueur du match entre l'Angleterre et la Croatie ce soir. Et preuve que cette rencontre remportée par l'équipe de France hier, preuve de cette rencontre, il y a quelques nuages à la frontière franco-belge ce matin, quelques gouttes de pluie sont même possibles. Partout ailleurs, le soleil dominera encore avec des températures assez homogènes entre 18 et 20 au nord de la Loire, 22 à Lyon, mais déjà 27 à Bordeaux, 29 sur la Corse.
Dès qu'on a passé la frontière, ça rayonne, c'est ça ?
Exactement.
Bon, ben voilà. Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal, rendez-vous à 7h30 pour un rappel des titres. France Culture, il est 7h10.